La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet. De retour dans la midinale de Radio Piquet du 3 octobre 2022, deuxième partie qu'on appelle « S'informer autrement ». C'est normalement là où on parle d'un sujet qu'on a pris à partir d'un livre, à partir d'un docu, à partir de quoi que ce soit. Des fois, ça nous arrive aussi de repartir d'un article de presse, mais bon.
Bah, de présenter un autre média aussi, ça peut être possible. Ouais.
Et donc là, Kevin, tu vas partir d'une vidéo
d'un Non, alors dans un premier temps, je vais parler d'un bouquin, en fait, d'accord, qui est paru en février de cette année, de février 2022. C'est un bouquin qui s'appelle « Hold up sur la Terre ». Et donc l'autrice, c'est Lucie Leclerc. Elle avait déjà fait un bouquin qui était hyper intéressant. Donc c'est aux éditions du Seuil et c'est en partenariat avec Reporters qu'on commence à bien connaître et qui nous intéresse pas mal, surtout sur toutes ces questions-là. Elle avait déjà écrit un bouquin qui s'appelait « Pandémie, une production industrielle » et qui était hyper intéressant sur les conséquences en fait de l'élevage industriel, des fermes-usines et de la biosécurité en fait en général sur le développement des pandémies animales et sur le risque de basculement aussi sur des zoonoses en fait comme on a connu avec la Covid par exemple. Donc ce bouquin-là, il est disponible un peu partout. Donc je le rappelle, son premier bouquin, c'est Pandémie, une production industrielle. Et là, le livre en question, ça s'appelle Hold up sur la Terre. En fait, en partant de quelques cas concrets de différentes échelles, secteurs et régions de France, Lucie Claire dresse le constat de l'accaparement progressif et accéléré des terres agricoles par les grandes entreprises. Le bouquin est hyper intéressant. Je vais pas tout raconter, mais en tout cas, il y a toute une partie sur le rôle des SAFER. Et j'ai pris quelques extraits pour ça présente en gros c'est une bonne partie, c'est un sixième du bouquin où en fait elle explique un peu le fonctionnement des SAFER. Et pourquoi est-ce que le fonctionnement ne résout pas en fait le problème de l'accaparement des terres? Tu avais quelque chose.
Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est la SAFER?
Alors les SAFER, c'est en gros c'est des organismes au niveau régional, je crois, et qui gèrent en fait. Mais les extraits en fait vont expliquer un peu plus longuement, mais qui gèrent un peu qui gèrent les ventes de terres agricoles. C'est-à-dire que dès qu'il y a une terre agricole qui est vendue. Normalement, la SAFER doit en être informée et doit arbitrer en fait la vente de ces terres-là. C'est-à-dire qu'il y a un vendeur, il y en a un ou plusieurs acquéreurs. Et normalement, la SAFER est censée arbitrer pour savoir à qui va avoir le droit d'acheter les terres. Et localement, on a eu le cas, d'ailleurs, ce serait hyper sympa de le réinviter. Le cas de Bastien Moisan à Daoulas, lui qui a été confronté justement à une histoire de terre comme ça, donc c'était dans sa famille. Et au final, ce qui s'était passé, alors il faudra aller un petit peu plus loin, mais les terres, elles avaient été vendues. Alors le terme exact, je crois que c'est la vente à la bougie, c'est-à-dire une sorte de vente aux enchères. Un peu en loose day, donc voilà. Et en fait, lui, quand il avait été privé de l'achat de ses terres, parce que en gros, c'était ses voisins qui avaient déjà, je sais pas combien d'hectares, qui avait fait monter le prix, bah, il avait fait appel à la SAFER pour leur dire, bah, mettez votre nez là-dedans parce que en fait, je suis en train de me faire avoir et par des gros, quoi. Alors que la SAFER, normalement, enfin, là, on va lire quelques extraits, mais la SAFER, normalement, par exemple, pour du bio, pour des terres qui sont en bio, elles sont obligées de revendre à un exploitant qui serait en bio, enfin, pour faire du bio, entre autres. Et normalement, elles visent plutôt à la distribution, enfin, la distribution entre guillemets, en tout cas, l'acquisition des terres par plutôt des petits et des nouveaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche à agrandir son exploitation, en fait, sera pas privilégié, normalement encore, par rapport à un exploitant qui est nouveau et qui cherche à s'installer. Voilà. Donc je vais juste, ça va être un peu long, mais comme...
T'as le temps.
On est ouais, il est 1h15. Et voilà. Et je vais peut-être un peu. Il va y avoir quelques blancs parce que c'est un bouquin que j'ai chopé à la médiathèque, donc je ne l'ai pas raturé et machiné ou stabiloté parce que je respecte les médiathèques et leurs œuvres. Je commence. Donc la vente d'une terre agricole n'est pas comme une vente d'autres biens fonciers. On ne peut acheter une ferme comme on achèterait un studio ou une maison. De même, on ne peut devenir locataire de terres cultivables sans avoir de permis. Le marché des baux, comme celui des ventes, sont encadrés par les règles qui déterminent qui peut utiliser la terre et dans quelles conditions. De quoi s'agit-il ? Imaginons un agriculteur qui prend sa retraite et veut se séparer de sa ferme. Les autorités ont un pouvoir exceptionnel, celui de diriger le bien vers un acheteur potentiel. Celui qui désire acquérir une ferme doit ainsi voir son projet validé ou non, par un petit parlement du foncier qu'on appelle la SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Créée en 1960, les SAFER existent toujours, bien que leur mode de financement ait aujourd'hui changé. Au début abondées par les fonds publics, elles se rémunèrent grâce aux commissions qu'elles touchent sur les ventes. Et ça, on va en reparler après. Donc il y a une citation, c'est une des élus, une élue SAFER qui est interviewée et qui dit « Nous attribuons la terre à celui qui en a le plus besoin et non à celui qui a le plus de moyens. » Donc ça, c'est dans les...
La théorie.
C'est dans la théorie, ouais. Et on va voir plus tard que c'est pas forcément le cas. Elle parle d'un cas concret, c'est la société Reward. Donc la société Reward, leader du secteur agroalimentaire de l'Empire du Milieu, venait d'acquérir incognito, c'est-à-dire sans passer par la SAFER, 1700 hectares, une surface égale à 2400 terrains de football. Donc ça, c'est le cas qu'elle utilise. Et après, elle va expliquer comment est-ce que ça s'est passé. Donc à leur création, il était prévu que les SAFER arbitrent le marché foncier, pas le marché des entreprises. Mais en 60 ans, les fermes ont changé. Plus grandes, plus spécialisées, plus modernes, plus diverses. Elles ont vu leur forme juridique évoluer. Et aujourd'hui, de plus en plus ont le statut d'une entreprise classique. Les SAFER, elles, sont restées sur un modèle ancien et ne peuvent intervenir lors d'une vente de société qu'en cas de cession totale des parts. Dès lors, la manœuvre est simple. Il suffit d'acquérir moins de 100% du capital d'une société agricole pour la contrôler, mais sans être soumis aux droits de préemption. Donc voilà, en fait le droit de préemption, c'est dès que la SAFER voit qu'il y a potentiellement quelque chose qui répondrait pas à ce que au but que les SAFER se sont fixés, en fait peut acquérir de la terre et la mettre de côté, en fait, et après décider de qui va l'acquérir, quoi. Ouais, et en fait, là, sur la SAFER, elle explique, il y a tout un chapitre aussi sur comment... Donc ça, c'est à partir d'un constat, en fait, il y a plusieurs députés qui ont essayé d'aménager la loi, justement, pour donner plus de pouvoir aux SAFER, notamment pour que les SAFER puissent intervenir, justement, dans ces cas-là où c'est pas... ils ne considèrent pas ça comme de la vente de terres agricoles, ils considèrent ça comme de la vente de parts d'entreprise. Donc ça, c'est le gros souci. Et là, je vais résumer un petit peu, mais en gros, il y a un député socialiste en 2016 qui a soulevé cette question-là. De 2016 à 2020, il s'est battu pour que ce soit mis à l'agenda du Parlement. Et en fait, il n'a jamais eu de réponse en fait, par rapport à ça. Et en 2021, il y a un député La République en Marche qui s'appelle Sans passe tous. Qui a déposé une proposition de loi et qui a été adoptée par le Parlement en décembre 2021. En fait, elle en fait la critique suivante. Avec cette réforme, les SAFER voient leur mission étendue au marché de toutes les ventes d'entreprises propriétaires de foncier agricole. Une avancée. Ce changement marque en apparence un tournant, mais cette nouvelle loi ne permet toujours pas aux SAFER d'écarter efficacement les multinationales, pour deux raisons. D'abord, sur le marché des ventes d'entreprises, les nouvelles règles ne sont pas les mêmes que sur le marché foncier classique. Elles sont plus souples. De plus grandes fermes sont autorisées et les projets qui apportent au développement économique local sont les bienvenus. Ce que cela signifie, Alexandra Kirsch nous donne son analyse. La directrice des études du cabinet d'expertise agriculture stratégie prend le groupe Reward, donc le même que tout à l'heure, pour exemple. Il aurait pu argumenter que son projet contribuait au développement du territoire au regard notamment des emplois créés et de la performance économique des sociétés concernées. La nouvelle règle permet aux entreprises d'avoir un laissez-passer. Avant la loi, elles le prenaient sans demander. Il est maintenant possible de l'obtenir de la main des autorités. Donc elle est clairement critique par rapport à cette pseudo proposition de loi qui sert à rien. Et elle conclut... Elle conclut un petit peu en disant « Le filet des affaires s'est agrandi, mais avec des mailles encore trop larges. » Donc, voilà. Et j'ai juste un dernier passage qui n'est pas du tout dans le même chapitre, mais qui parle un peu de la même chose. Et quand... Enfin, vous allez voir. Donc là, elle parle de Chanel. En fait, c'est une des autres entreprises qu'elle cite dans le bouquin. Il a fallu 6 mois d'enquête pour savoir à quel prix Chanel a acheté la terre. Donc ça, c'est plus dans le sud-est, je crois, vallée du Rhône, en fait. Rappelez-vous, la société fait pousser des fleurs sur une dizaine d'hectares à côté de Grasse. Elle a acquis la ferme pour 10 millions d'euros, soit 3 fois le prix local du sol agricole. Avec une telle proposition, elle était sûre d'emporter le marché. Dans le secteur, la terre coûte déjà cher. Son prix s'élève en moyenne à 300 000 euros l'hectare, soit 50 fois la moyenne nationale. Cela s'explique par la forte attractivité d'une zone à 2 pas de la Méditerranée, mais comment est-on passé de 300 000 euros l'hectare à 1 million d'euros l'hectare ? Pour Chanel, il n'y a pas de quoi scier. Le prix de ces parcelles a fait l'objet d'une grande vigilance de la part des pouvoirs publics, m'explique Sophie Vergès, directrice du service de presse et des relations extérieures de la société, avant de compléter « Le montant final de la transaction a été approuvé en comité départemental technique de la SAFER. » Donc là-dessus, tout à l'heure, juste en introduction, pour dire d'où venait l'argent des SAFER, la grosse question, c'est qu'actuellement, la SAFER est financée par des commissions qu'elle touche sur les ventes. Donc c'est un peu problématique de dire qu'à la fois, on contrôle le prix de la terre, et qu'on peut s'imaginer que si tu vends la terre 3 fois plus cher que ce qu'elle coûte en réalité, en gros, la SAFER récupère une commission qui est 3 fois plus importante que ce qu'elle aurait pu, faire. Donc ça, c'est des problèmes les gens renseignés connaissent. Le bouquin, il est juste hyper intéressant, il est énormément abordable, il est court. Mais voilà, c'est un bon début pour s'emparer du sujet. En tout cas, sur les affaires, je trouvais chouette. Voilà, je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ça.
Arro sur la spéculation. Voilà. Parce qu'en gros, c'est ça, quoi. C'est les grosses boîtes qui spéculent finalement, ouais. Qui récupèrent des terres en spoilant tout le monde autour, quoi. Et, ouais, voilà, c'est...
Et alors de mémoire aussi, elle a un court passage où elle dit que, en gros, l'affaire Reward, là, ça fait beaucoup parler parce que c'était une entreprise chinoise. Donc, tu sais, le bon vieux racisme français. Et en fait, elle dit bien que les gens qui ont ce genre de pratique-là, ces acheteurs justement qui viennent en fait de grosses entreprises ou de multinationales, les acheteurs, en fait, ils représentent qu'il n'y a que 2% en fait, où c'est des boîtes étrangères. Donc voilà, on pourrait peut-être nettoyer aussi devant le pas de notre porte. Voilà.
Bien, merci Kevin.
De rien.
T'avais un autre sujet ?
Ouais, j'avais un autre sujet. Parce que,
et là, c'est à partir d'un docu.
Oui, parce que je me suis beaucoup attaché à ce que... on respecte la rubrique « S'informer autrement », ce qu'on n'a pas vraiment fait la semaine dernière.
Parce que je risque de ne pas faire après toi.
Mais si. Je voulais juste signaler qu'il y a encore le film documentaire qui s'appelle « Sacrifice paysan » et qu'on peut regarder sur le site d'Arte. Donc il est présent depuis cet été, il est encore présent au moins jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, Sacrifice paysan, c'est un film de 2022. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à voir c'est dans le cadre d'une série documentaire. Donc, il doit y avoir une vingtaine de docus qui sont accessibles et qui sont tous, à mon avis, intéressants. Et ça raconte la mort, en fait, d'un agriculteur, donc Jérôme Laronze, un éleveur bovin de 37 ans qui est abattu par les gendarmes au terme d'une cavale de 9 jours. En conflit avec les services de l'État, l'exploitant bio, porte-parole de la Confédération paysanne de Saône-et-Loire, s'est soustrait à un énième contrôle sanitaire et a tenté d'alerter au cours de sa fuite sur le malaise de sa profession. Et, je ne sais pas, on va écouter un petit extrait, je pense, si tu peux, Asgard.
En fuite depuis une semaine, après un contrôle sanitaire, un éleveur bovin a été abattu hier par des gendarmes.
Il était en cavale suite à des contentieux avec les services de l'État concernant son exploitation agricole. Jérôme Laronze, 37 ans, finit dramatiquement sa fuite dans un petit chemin de terre.
Jérôme Laronze est au volant, il démarre en trombe, selon les militaires. Des coups de feu sont tirés par les gendarmes. Le décès de l'agriculteur est prononcé. Jérôme Laronze a succombé à 3 balles, dans le dos et sur le flanc. La mort du jeune éleveur fait l'effet d'une bombe dans le monde paysan.
Oh bah on est abasourdi, nous. Et on se dit, bah ils l'ont eu. C'était ça le mot, hein. Ils l'ont eu. Et pourquoi non ?
La mort de Jérôme Laronze, pour moi, n'a fait qu'amplifier ma colère, en fait, ma rage contre ce système d'industrialisation de l'agriculture qui est capable d'aller jusqu'à supprimer la vie d'un éleveur, en fait.
Voilà, donc au-delà du fait divers qui est assez dégueulasse, et puis bon, on se rend compte, enfin suivant l'enquête, que bon, c'est pas du tout ce que nous reportent comme à chaque fois en fait les médias. Hein, c'est dès que la police ou la gendarmerie ouvre le feu, on a l'impression que c'est de la légitime défense. Et en fait, bon, l'enquête montre que bon, il s'est quand même pris les balles dans le dos, que le gars, il était juste traqué depuis 8 ou 9 jours, et qu'il était complètement aux abois, mais il avait aucune intention de tuer qui que ce soit, en fait. Donc au-delà de ce côté-là, ça parle aussi de ce qu'on a un peu vu, ou ce que nous montre aussi Lucie Leclerc, c'est les aspects de la biosécurité. Donc, et je pense que c'est des thèmes qui seront traités lors de l'émission du 15 octobre, hein, parce que. Ou alors peut-être plus tard. Hein. C'est en gros la biosécurité, c'est tout ce qu'on entend par normes qui font que plus pour protéger les élevages ou pour assurer toute une série de normes d'hygiène ou de quoi que ce soit. En fait, on va avoir tendance à enfermer. Contrôler et tout ce qui est élevage, en fait, Et on sait bah, justement avec les quelques éclaircissements là des enquêtes qui ont été menées, c'est que plus tu regroupes des individus qui auront les mêmes traitements et globalement qui auront un code génétique très proche, plus tu vas favoriser en fait le développement des maladies et plus tu vas les bourrer d'antibiotiques et moins ils seront résistants à n'importe quelle maladie. Enfin voilà, ça traite un petit peu de tout ça. Et puis c'est un super hommage, je pense aussi à un syndicaliste qui était un grand acteur de la conf quoi. Donc voilà, c'est pas un film rigolo. Mais voilà, je vous invite à tous et toutes à aller le voir. Ça dure 56 minutes. Voilà.
Ça va. Voilà. Ouais, dans la série des 20, il n'y en a pas beaucoup de rigolos. Ils sont tous un peu rudes. Il y en a un dans mes souvenirs sur la gestion, enfin, l'accaparation de l'eau aussi. Ouais, il est assez dur.
Alors, je sais qu'il y en a un qui s'appelle No Sex, que je n'ai pas encore regardé, mais peut-être que je vous en parlerai.
Voilà, d'accord. Bastien, tu voulais rebondir, toi.
Les 20 documentaires, c'est sur tous les sujets ou sur...
Ouais, c'est des sujets de société. Alors, la série, elle s'appelle... je vais te retrouver ça, mais je te laisse poursuivre.
Non, je voulais pas te mettre en porte-à-faux, mais... non, je me demandais si c'était que au départ, mais vu que tu as parlé de nos sexes, je me demandais au départ si c'était sur l'écologie ou sur ces thématiques, mais voilà...
En fait, c'est une série qu'ils ont sortie pour l'été, tu sais, comme ils font oui. des fois en se disant, bah voilà,
c'est pour éviter que tu regardes les grands feuilletons d'été sur ouais. TF1 ou Antenne 2, quoi. Antenne 2, ça n'existe même plus, ça.
Antenne 2, non, ouais, c'est comme les gens qui disent FR3. Je crois que j'ai dit FR3,
d'ailleurs. Je viens de trahir mon âge.
Antenne 2.
Donc, si ne nous regarde pas.
Donc la série s'appelle La vie en face. Et voilà, alors je vous lis juste les titres vite fait.
La vie en face, la mort dans le dos. Pardon.
Il y en a un qui s'appelle On va tout péter, c'est peut-être à regarder. Il y a D'après une histoire vraie, donc c'est un truc sur Act Up. No Sex, on en a parlé vite fait. Et puis voilà, non, je pense que c'est vraiment. Ça touche tous les domaines, ouais.
Bon,
donc voilà. Donc si vous n'en avez rien à foutre du monde paysan, en fait, vous pouvez quand même aller faire un tour sur cette série.
Aller faire un tour sur Arte, ça fait du bien. Voilà.
Oui. Bon, moi j'ai un petit dernier sujet pour cette partie s'informer autrement. Alors, est-ce que ça vient d'un article ou pas? Comment on considère? C'est pas vraiment un média. Je me suis basé sur le site sortirdunucléaire.org, qui revient quand même sur une actualité, quoi, qui... récemment, là, le 22 septembre, il y a Macron qui a été inauguré un parc éolien maritime à Saint-Nazaire. Alors, ok, d'accord, on parle de l'éolien, mais dans le cadre de la transition énergétique. Et il en a profité pour faire un joli discours, pour réaffirmer son projet d'un déploiement d'une stratégie à marche forcée du nucléaire. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, il avait dit, je me rappelle, je ne sais plus quand, il y a un an à peu près, qu'il souhaitait reconstruire deux EPR. Bon, bah là, ça s'accélère. Hein. C'est pas deux qui veut mettre en fabrication. C'est au moins 6 et voire 8 supplémentaires à terme. Et pour Macron, ça va pas assez vite. Tu comprends, c'est vrai qu'on avait un objectif pour 2035, je crois, pour répondre à cette transition. Et donc, quoi de mieux que de se mettre à construire de nouvelles centrales nucléaires pour répondre à ce besoin de 2035 ? On revient un peu sur l'historique de l'EPR. Flamanville 3, un EPR, premier EPR en construction en France, chantier commencé en 2007 pour une livraison prévue en 2011, et c'était superbe, ils en voulaient à l'époque. Hein. Bon, ben non, en 2022, il est toujours pas branché le bordel, hein, donc déjà, ça fait 15 ans. Voilà.
Il a coûté 4 fois le prix.
15 ans. Et ce n'est pas fini, hein, parce que des problèmes de construction de cet EPR, il y en a en pagaille, je crois que... Ils ont fait une croix pour refaire la cuve, parce qu'il y a quand même un problème avec la cuve. Hein, c'est ce qui a entraîné les problèmes en Chine, mais ce n'est pas grave, on va garder les mêmes cuves. Il y a eu des problèmes à plein de niveaux. Là, c'est des soudures. Ils sont sur des soudures en ce moment, je ne sais pas quoi. Il y avait une soixantaine de soudures à refaire. Ils en ont fait 11. Bon, bah, c'est bien, on s'approche de la date de démarrage de l'EPR de Flamanville 3. Bon, bref. Dans cet article de sortirdunucléaire.org, on nous explique un peu plus ce que c'est que le déploiement à marche forcée assumé d'Emmanuel Macron. Alors en fait, qu'est-ce qu'il va faire pour aller plus vite? Lui, son objectif, c'est que la première pierre d'un futur EPR, ce soit avant la fin de son mandat. Donc au mieux 2027. Hein. Ça fait qu'il reste que 8 ans pour faire un EPR pour 2035. Et alors, qu'est-ce qu'il a prévu? Parce qu'il y a un projet de loi qu'il a sorti pour ça. D'ailleurs, sur l'article de sortir du nucléaire, vous avez accès au projet de loi et à un document aussi qui expose les motifs.
La loi, elle s'appelle ASAP.
ASAP. Non, c'est pas le vrai. Non, t'as vu ça où,
si,
toi?
Si, je l'ai vu au-dessus.
Non, c'est une blague qui me fait.
La loi donc, ASAP. As soon as possible. Ouais, allez.
Fil ASAP. Bon, bref. Donc, comment il explique comment on va pouvoir accélérer les constructions de cette EPR? En fait, il explique tout simplement, puisque c'est dans le projet de loi, qu'on va faire fi des lois littorales, qu'on va faire fi des lois de protection des espèces protégées et qu'on va faire fi des consultations publiques, quoi. Ça se dit, on va faire fi. Hein.
Ouais.
En gros, tout ça, on s'en fout. Hein. Ça, c'est de la merde. Ça sert à rien. On va pas protéger le littoral. On va pas protéger les espèces protégées. Puis votre avis, messieurs, dames, autour de la table, on s'en fout complètement. Donc, mais c'est exposé clairement dans leur projet de loi. C'est assez dingue. Je vous invite à aller le lire. Hein. C'est pas une blague qu'on est en train de vous faire. Il dit clairement qu'on va accorder des dérogations pour ces constructions. Et ça, il y a nos problémos. Donc, je ne vais pas relire tout l'article de sortir du nucléaire. Qu'est-ce que je pourrais vous en lire un petit extrait quand même, quoi. Donc, c'est ça. Hein. Il a annoncé une accélération des procédures censées permettre de démarrer les premiers réacteurs encore plus tôt que prévu. Alors, il y a des procédures, ça, c'est pour les enquêtes préliminaires qu'on fait quand même avant de faire de la merde. Par contre, il va falloir qu'il m'explique comment il arrive à construire un réacteur plus vite que prévu. Sachant que, quand même, dans cet article, on s'est bien expliqué, à part les droits de l'environnement piétinés, les procédures bâclées, il va quand même falloir trouver des ouvriers spécialisés, il me semble qu'il en manque beaucoup dans ce domaine-là.
Il n'y
en a plus, donc vas-y, Manu, traverse la route et tu auras peut-être un job pour fabriquer une centrale nucléaire. Voilà. Donc, j'ai pas grand-chose à dire de plus parce que c'est assez explicite. Puis là, on va bientôt finir cette deuxième partie. Donc, moi, je vous mettrai le lien de cet article qui est très bien fait. Il y a le projet de loi, comme je vous dis, un autre PDF qui expose les motifs du gouvernement. C'est assez énorme. Et voilà, moi je voulais juste gueuler là-dessus une nouvelle fois, parce que j'aime bien parler du nucléaire, mais alors là, on piétine tout, quoi.
Ouais, puis il faudra surveiller, parce que là, tu as le projet de loi des EPR, mais l'année dernière, là, tu avais parlé aussi des mini-centrales, et ça, ils n'en parlent plus trop non plus.
Non, ils n'en parlent plus. Bah, il va peut-être rebondir, peut-être qu'à un moment, il va dire qu'en fait, une grosse, c'est pas possible, on va faire des petites.
Parce que ça, c'était le projet porteur aussi, au lieu de faire des grosses centrales en mégawatts, on allait implanter des mini-centrales en kilowatts. Elles sont plus petites, c'est mieux.
Ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'est ça, hein. Il veut que la mise en service pour 2035, mais en fait, concrètement, ce ne sera pas en 2037, voire 2040, et ceci s'il n'y a pas de problème sur les nouveaux chantiers. Et alors, histoire de finir de rigoler, ça c'était dans un article trouvé sur 20 minutes, qui c'est qui a parlé, notre chère Agnès Pannier-Runacher, elle c'est la ministre de la transition énergétique, c'est ça?
C'est ministre de l'écologie.
Ministre de l'écologie, qui a quand même dit, on peut se dire, parce que le but c'est, en fait, comment il justifie son truc là, c'est qu'ils vont utiliser des sites déjà existants, donc où EDF serait déjà propriétaire de certains sites, mais on utilise des sites existants, mais il va bien falloir les étendre un peu quand même et augmenter potentiellement les risques sur l'environnement. Si tu en rajoutes, tu rajoutes des risques, mais ça on ne l'étudiera pas parce qu'il n'y aura pas de nouveaux risques. Et elle dit quand même qu'on peut se dire qu'on peut aller plus vite sur les phases d'instruction administrative, car on ne va pas mettre en danger la nature sur des sites déjà existants. Hein, elle le sait déjà, c'est bien. Elle l'a dit, Agnès, donc c'est pas la peine. C'est elle la chef. Hein. Elle est experte en environnement. Voilà, on vous mettra le lien.
Faut le dire vite qu'elle est experte en environnement.
Oui, comme tous nos ministres sont experts dans leur domaine. Le ministre du Travail est expert en abandon de poste. D'ailleurs, il devra en faire un, comme ça, il en saura un peu plus. Bref, je ne reviens pas là-dessus. Voilà, voilà, c'était pour le petit coup de gueule autour du nucléaire. Et youpi, tralala, vive les prochaines centrales.
Et du coup, on fait une petite pause ou...
Bah, moi, je veux bien, ça me permettra d'aller me calmer un peu.
Avant de faire une pause, ce qui pourrait être intéressant, c'est parce que là, on parle des nouveaux chantiers, mais on pourrait parler des anciens. Moi, je pense à la centrale nucléaire de Brennilis.
Ouais, voilà. Ouais, ouais. D'ailleurs,
qui
aussi...
Qui en passe de commencer son démantèlement.
Final.
Final.
Démantèlement final.
Parce qu'il ne reste plus que le cœur.
Il ne reste plus que...
Ils ont prévu... Ils sont passés de 10 à 17 années en prévision des travaux.
C'est ça.
Et la société qui est en charge de ça, c'est Orano. Et Orano, c'était Areva. Et Orano se crée des filiales spécialisées dans le démantèlement aussi depuis.
Ouais.
Voilà, donc
et moi, j'avais suivi la consultation publique, qui ne sert à rien, on vient de vous le dire. Les consultations publiques ne servent à rien. À Landunvé, ça n'a servi à rien. Pour Brennilis, ça ne servira à rien. Et on n'en fera même plus dans le cadre des nouveaux EPR. Mais il y avait quand même un truc qui était marrant, c'est que dans leur projet de démantèlement final, pour découper le cœur, bon, ils expliquent, ils ne mettront pas les ouvriers en danger, donc il y a besoin d'un robot qui va aller travailler en milieu radioactif. Ce robot n'existe pas à l'heure actuelle. Il est encore qu'en projet. Et je me rappelle, dans ce projet de démantèlement, ils expliquaient qu'ils espéraient qu'il soit prêt pour 2027. Bien évidemment, comme tous les projets EDF autour du nucléaire, il ne sera pas prêt en 2027. Enfin, moi, je suis prêt à reprendre l'antenne dans 5 ans et on en reparle, quoi. Et on verra si le robot est prêt, quoi. Mais,
dans 5 ans, il y aura un EPR, c'est bon.
Ouais. Peut-être à la place de Brennilis, puisque c'est un site existant.
Ou à Plogoff.
Bon, allez, on vous laisse. Il y a Asgard qui nous a prévu une nouvelle petite coupure musicale dont il va nous parler. Et nous, on se retrouve pour la troisième partie.
J'assume pas vraiment, c'est Pedro qui l'a faite.
Donc c'est du poney encore.
La canadienne de Joyeux Urbain et... Et c'était ça, quoi l'autre
Les retardataires.
Les retardataires, c'est ça. Il faudrait en chanter.
Avec mon frère, on s'est retrouvés tous les deux chez le notaire. Nous venions tous deux hériter de notre père. L'un de vous héritera de son manteau d'hiver, avec ses gros boutons et sa moumoute autour du col. Le deuxième aura ses résidences secondaires, son fric et ses puits de pétrole. Je me suis retrouvé avec la canadienne, je me suis retrouvé avec la plus moche. Mon frère est un sacré sans gêne, et c'est comme ça depuis que l'on est moche. Avec mon frère, on s'est retrouvés tous les deux en plein hiver, en pleine campagne pour fêter un anniversaire. L'un de vous dormira seul sous la petite tente, au fond du jardin du côté de la vieille grange. Le deuxième dormira dans la seule chambre vacante. Vous faites comme ça vous arrange. Je me suis retrouvé avec la canadienne, je me suis retrouvé avec la plus moche. Mon frère est un sacré sans gêne, et c'est comme ça depuis que l'on ignoche. Avec mon frère, on s'est retrouvés tous les deux à prendre un verre, et on s'est fait draguer par deux hôtesses de l'air. L'une d'elles était une stupide québécoise, moche comme un pou, maquillée tous azimuts. La deuxième était une magnifique hongroise. Mon frère m'a dit faut qu'on discute. Je me suis retrouvé avec la canadienne, je me suis retrouvé avec la plus moche. Mon frère est un sacré sans gêne, et c'est comme ça depuis que l'on ignore.
Ah ouais. Bah, regarde-moi ça, c'est là comme elle est belle.
Oui, elles sont belles, elles sont bien mûres. Mais il y en a là-bas aussi, je pense.
Ah oui, viens, allons-y, allons-y.
On se baladait dans la forêt, on cherchait des framboises. On est tombé sur des tarés, les Walt Disney sont barges. Hein, pendant qu'on se baladait, ben, on s'est perdu.
Mais ouais, mais c'est ta faute.
Quoi? Merde, on est où là? Faudrait pas rester, mais ils arrivent.
Hein, trop tard,
on s'est fait racketter par les aristochats.
Ah, ils ont pris mes pompes.
Mais les chats, ça met pas de chaussures.
Dépouillés, de la tête aux orteils. On se promène sans nos pompes et sans oseille. On voit Alice qui nous dit wesh, oh là, si vous voulez des trucs mortels, les gars, j'ai quelques merveilles. LSD, champignons, MDMA. Y'a de la mettre, des enfêtes et des extras.
Si vous balancez pas à cette pute de Blanche-Neige, ça reste entre nous mais moi, j'ai de la coke en extra.
Ah ouais, Blanche-Neige?
Non, la drogue c'est mal.
Ouais, c'est vrai.
Après avoir pris des champis à crédit,
soudain,
on entend une fille qui crie. C'est là qu'elle nous dit, mais les gars, ça c'est pas grave, c'est le dernier tournage de Pinocchio si Freddy. Viens, on s'arrache, si ça me fout le cafard. C'est là qu'on tombe sur un bar, j'barbe un plafard. Pas toutes ces Dumbo, ça
horrible.
Avec sa bouille de clodo.
On a croisé Peter Pan qui faisait l'aumône complètement fini. Paraît qu'il est sorti de 15 ans tôle pour pédophilie.
Le clochard a lâché la bête
pour lui choper sa maille. La petite sirène travaille en aquarium à Dubaï.
Cendrillon est schizo, elle parle à des oiseaux. Elle voit des sœurs tarées bornées qui la harcèlent. La bête est zoophile et Bambi en profit. Crochet se gratte la couenne au sommet d'un gratte-ciel.
Dumbo a mis ses cornes d'ivoire au clou.
Bête de poker,
le roi lion vieillit beaucoup.
Tête de cocker,
le boss humeur en tirant son coup.
Trop pour le cœur,
Merlin s'est mis un flingue dans la bouche.
Harry Potter.
Ah ok, il s'est suicidé Merlin.
Ah mais maintenant sans diplôme, t'as pas fait Poudlard.
Assis sur un chêne de vieux homo, roupie. Ah bah tiens c'est Rock, c'est Rookie.
Et ça va les vieux?
Oh vous avez morflé aussi, cette forêt était mieux dans les années hippies.
On y va?
Ouais.
Merde les framboises.